Pas comme tellement vous avez évoqué hier soir déjà deux cinéastes, Yvette Cassavetes, en parlant de ce qu'ils cherchaient avec, dans le travail des comédiens. Alors c'est vrai que pour celles et ceux qui suivent votre riche bibliographie, c'est plutôt dans le domaine des séries qu'on vous connaît davantage, que Twin Peaks, Lost, pour citer deux des ouvrages importants qui vous ont peut-être aussi révélé à un plus grand nombre. Séries et cinéma, c'est quand même effectivement pas le même monde. Vous êtes, est-ce que vous allez dans les salles, vous, voir les films? Ou est-ce que vous avez une pratique tout autre?
J'allais beaucoup dans les salles, comme beaucoup de gens d'ailleurs, j'allais beaucoup dans les salles il y a 20 ans. Et j'y vais moins, parce que les films parlent moins de ce que je recherche. Mais quand j'aime un cinéaste, évidemment, je vais le voir en salle. Même si c'est des rediffusions, j'y vais. Parce que son œuvre a été pensée selon ce médium. C'est comme les musiciens qui ont fait des 33 tours. On peut pas leur ôter le 33 tours, même si on peut l'écouter en CD, c'est plus simple si on a une platine CD. Il faut penser que c'est une œuvre qui a été pensée par rapport aux médias. Ils avaient ça en tête quand ils le faisaient.
On changeait de face.
Donc, voilà, exactement. Mmh. Exactement, c'est très important. Donc, du coup, les cinéastes qui ont pensé par rapport à la salle, idéalement, il devrait y avoir des salles jouant leurs films en permanence. C'est-à-dire que, grosso modo, il faudrait qu'il y ait une salle qui joue Suspiria en boucle, une salle qui joue Shining en boucle, une salle qui joue... C'est ça qu'il faudrait. Ce serait ça l'idée. Bon, en l'absence de ça, évidemment, on se contente des DVD avec des espèces de Dolby Surround, je sais pas quoi. Mais bon, quoi, en attendant, il y a des cinéastes que j'aime aujourd'hui. Il y en a moins que dans le passé parce que les séries ont pris le dessus sur mes goûts progressivement, ou je sais pas, ou peut-être même d'un coup, disons deux temps avec Twin Peaks et Lost en tout cas, et puis après ça a pris vraiment fortement. Par exemple, un cinéaste français que j'aime beaucoup qui est Bertrand Mandicot, c'est vraiment pensé pour la salle. Alors je suis très content de pouvoir les voir en DVD parce que c'est pas projeté très souvent. Là je sais qu'il fait un long métrage et j'ai très hâte de le voir. Je pense qu'il va sortir entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, donc c'est très clair que ça ne produit pas du tout la même chose, que la dimension église hétéroclite et église burlesque de la salle de cinéma fonctionne vraiment bien par rapport à un certain type de cinéma. Aussi les films avec un caractère de sensualité sacrée, c'est pas la même chose quand on les voit en salle et quand on les voit chez soi. Quand on les voit chez soi, on ressent pas ce truc là on n'a pas ce trouble qui vient parce qu'on est dans un espace collectif et que soudain il y a quelque chose qui émerge, qui est de l'ordre du rêve, de l'inconscient, de l'intime, et qu'on se prend à rougir de ce qu'on voit.
Inversement, pas comme tellement, est-ce que voir des séries sur grand écran dans les salles, c'est le cas dans des festivals, ouais. On a Sériemania à Paris.
Tout à fait.
Est-ce que c'est incongru, ou est-ce que aussi le binge-watching dont on parle beaucoup, c'est-à-dire de voir tous les épisodes à la suite et non pas un par semaine, ça vous paraît judicieux? Comment vous regardez-vous les séries?
Ah, moi je les regarde, je suis très orthodoxe, je les regarde épisode par épisode.
Oui, mais quand Netflix balance les 12 ou 13 épisodes d'une saison d'un coup, vous attendez une semaine avant de voir le deuxième, une semaine avant de voir le troisième?
C'est souvent pas les séries que je regarde, en fait. Parce que c'est souvent des séries un peu prestige qui sont balancées comme ça. C'est des séries pour les gens qui aiment pas les séries.
House of Cards, Vinyl...
Non, c'est pas de la série pour moi.
Bon,
non, c'est de la série, mais c'est de la série pour c'est pour les grands, quoi. C'est pour les grandes personnes, House of Cards. Le principe de la série, ce qui est important, c'est ce qui se passe entre deux épisodes. Si on est dans le binge-watching, déjà, ça veut dire qu'on annule totalement la place du spectateur. On lui donne à binger parce qu'on lui dit, bon, bah, de toute façon, il a l'habitude de voir les trucs d'un coup, d'un bloc, bah, il regarde d'un bloc et puis il nous fera pas chier, il sera content, il sera pas content, c'est comme ça. Vous voyez, une série comme The Leftovers, quand il y a eu la saison 2, de The Leftovers, c'était inimaginable de savoir comment allait être l'épisode suivant. Ils avaient monté à l'octave le type de relation qu'on pouvait avoir avec Lost, et c'était absolument incroyable, parce que moi je pensais que c'était pas possible de surenchérir, en tout cas dans des questions qui sont à la fois formelles et fondamentales. Je parle d'un truc, bon, ça spoil pour ceux qui n'ont pas vu la saison 2, tant pis, mais il y a un moment où le personnage principal on lui convainc qu'il doit mourir pour se débarrasser d'un fantôme qui le hante et qui est son plus grand ennemi. Et donc on a la fin de l'épisode où il accepte. La personne qui dit qu'il va mourir lui fait le personnage principal, c'est Kevin. La personne qui lui dit ça, c'est Virgile. Virgile est supposé en fait lui administrer une drogue pour le réveiller juste après. Et donc il prend je sais pas quoi, une espèce de poison. C'est comme une espèce de rituel chamanique. Et à ce moment-là, on voit et c'est très lent et ça fait presque Lars von Trier ou Haneke en termes de lenteur. Il y a un truc où d'un coup ça devient pâteux et un peu malsain et très j'adore, c'est très étal, et où là il vide très lentement son espèce d'antidote là, et puis on attend, il y a l'autre qui a crevé quoi, et lui il est en face, et puis il prend un revolver et il se tire une balle dans la tête, et là on est laissé là. Et franchement, ça a aucun sens de binge-watcher un truc pareil. Ce qui est important, c'est que pendant une semaine, on a strictement aucune idée de ce que la série peut devenir. C'est juste le personnage principal qui vient de mourir et son guide qui vient de se suicider derrière. Et ils sont tous les deux laissés pour mort et on a une espèce d'attente comme ça où le spectateur sait plus où il est, sait plus ce qu'il regarde, comment et tout ça. Tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment, je crois que c'est le rituel de l'attente est important et le rituel de la surprise est important aussi. Parce que c'est pas tant d'être surpris par la série qui est importante, c'est d'avoir fait avant tout un tas de spéculations et de les voir annulées. On intensifie énormément notre regard. Donc, et ça, c'est quelque chose qui pouvait pas y avoir dans le cinéma. Donc, le cinéma a une autre fonction. Il a une autre fonction qu'il a, on va dire, comme il a perdu, on va dire, une part de son côté grand art populaire avec la série télévisée a pris dessus là-dessus, ce qui peut produire et comme tous les grands arts qui ont été un peu abandonnés de la fonction populaire, c'est des choses, c'est de continuer des questions qui n'avaient pas été résolues ou des univers mentaux dont on sait qu'il restait un élément encore en latence. Parce que quand on va dans une salle de cinéma, on va dans une espèce de temple. Donc on va dans un lieu qui est potentiellement un lieu de contre-initiation.